France Culture, il est 18h, voici le journal d'Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Ce n'était pas de simples funérailles. À Belfast, les dirigeants britanniques et irlandais ont assisté aux obsèques de la journaliste Lyra McKee, tombée sous le tir d'un militant nationaliste nord-irlandais à Londonderry. Reportage de Julien Lagache. En Afghanistan, les forces gouvernementales et étrangères tuent plus que les insurgés, c'est ce que révèle un rapport de l'ONU. Nous irons à Kaboul. Le Conseil d'État se prononce en faveur de l'arrêt des soins de Vincent Lambert en état végétatif depuis 2008. Ses parents annoncent aussitôt de nouveaux recours. Les maires de 13 villes réclament à l'État français des places d'hébergement supplémentaires pour les migrants. Ils jugent indigne la situation des étrangers qui cherchent asile en France. La première ministre britannique, Theresa May, a séché la séance hebdomadaire des questions au Parlement pour se rendre à Belfast. Elle est venue assister aux côtés du premier ministre irlandais aux obsèques de la journaliste Lyra McKee. Cette jeune femme de 29 ans est tombée jeudi dernier à Londonderry sous les balles d'un membre du groupuscule La Nouvelle IRA, hostile aux accords de paix du vendredi saint, lors d'affrontements entre des militants nationalistes et des policiers. Le reportage de Julien Lagache à Belfast.
Lyra était une enfant des accords de paix, énonce le prêtre. Il rappelle que la jeune femme avait 9 ans lors de ce tournant, une page de l'histoire nord-irlandaise à laquelle la journaliste ne cessait de penser, se remémore son ami Stephen Lusty de 20 ans son aîné.
Nous avons tous les deux grandi dans le nord de Belfast et nous avons souvent échangé sur nos souvenirs sur ce que c'était de grandir là dans les années 70 et 2000.
Lyra McKee avait même fait de cette question un vrai sujet d'enquête journalistique. Tous soulignent que la jeune femme souhaitait voir la société nord-irlandaise enfin évoluer vers la réconciliation. Sa mort a suscité un élan d'unité nationale, c'est son héritage mais c'est aussi un lourd tribut payé, dénonce le père Martin McGill qui l'a bien connu.
Une question demeure aujourd'hui. Pourquoi, au nom du ciel, a-t-il fallu attendre la mort d'une jeune fille de 29 ans pour en arriver là ?
Un message adressé aux responsables politiques nord-irlandais, assis au premier rang et dont tout le monde attend désormais un geste de réconciliation dans un pays sans gouvernement depuis plus de 2 ans.
La première ministre écossaise souhaite un nouveau référendum sur la question de l'indépendance. Nicola Sturgeon veut proposer le choix entre le Brexit et une Écosse indépendante qui soit membre de l'Union européenne avant la fin de la législature actuelle. Elle a indiqué aujourd'hui aux députés qu'elle comptait préparer un projet de loi en ce sens d'ici la fin de l'année. Comme chaque mercredi, nous faisons un point sur la campagne européenne chez nos voisins. Aujourd'hui, zoom sur l'Autriche où la campagne peine à se lancer. Les scandales qui touchent le FPE, le parti d'extrême droite au pouvoir aux côtés des conservateurs, ont monopolisé le débat ces derniers jours. Dernier scandale en date, un élu du parti, adjoint au maire de la ville natale d'Adolf Hitler, a été contraint de renoncer à son mandat et à son appartenance au FPE après avoir publié un « poème » entre guillemets qui comparait les migrants à des rats. Le parti d'extrême droite est assez embarrassé par cette affaire. Les précisions de notre correspondante à Vienne, Isorias.
Cette semaine, il n'est question que de ça en Autriche, de ce texte écrit par un élu de Branaamin qui assimile les migrants à des rats. Christian Schilcher a été contraint de démissionner et le FPE a dû s'expliquer hier, le jour même du lancement de sa campagne pour les européennes. Harald Filimski, tête de liste du parti à la télévision publique autrichienne.
Un vice-bürgermeister qui a etwas geschrieben hat, was abzulehnen ist, keine Frage.
Ce qu'a écrit cet adjoint au maire doit bien sûr être condamné, mais cette affaire prouve aussi que le FPE travaille de manière saine et efficace, car cette personne a dû quitter le parti. Nous sommes très stricts dans ces cas-là.
Mais ce scandale s'ajoute à d'autres. Le parti a notamment été critiqué ces derniers jours pour ses liens avec la mouvance identitaire. Et à un mois des européennes, cela pourrait desservir le FPE, pas son partenaire, le parti conservateur du chancelier Sébastien Kurz, car chaque fois, ce dernier a pris ses distances après les scandales, une position stratégique selon le chercheur Bernhard Weidinger.
Kurz has managed to create an image as someone who's simply reasonable. So Kurz managed to attract.
Kurz a réussi à créer une image d'homme politique raisonnable. C'est comme ça qu'il est parvenu à attirer les gens qui partageaient beaucoup des idées du FPO, mais qui avaient des scrupules à voter pour ce parti.
Et pour le moment, à un mois des élections européennes, les sondages donnent le parti conservateur en tête, juste devant les sociaux-démocrates. droite et le FPE en troisième position.
Isorias à Vienne. Kiev dénonce un coup de poignard dans le dos. Le pouvoir russe a attendu la fin de l'élection présidentielle en Ukraine pour officialiser cette mesure. Les habitants des régions en guerre dans le Donbass pourront désormais, s'ils le souhaitent, disposer d'un passeport russe. En validant cette disposition, Vladimir Poutine semble avoir voulu voir ce que le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dans le ventre, Claude Brouillot.
Oui, bonsoir Aurélie. Effectivement, le Kremlin voulait sans doute tester le nouveau pouvoir ukrainien et il y est donc parvenu parce qu'il faut se souvenir qu'il y a trois jours seulement, après les déclarations de Volodymyr Zelensky, qui donc à peine élu, annonçait son intention de relancer le processus de paix dans le Donbass, eh bien donc Vladimir Poutine décide aujourd'hui de signer le décret qui doit faciliter en principe l'obtention de la nationalité russe aux habitants des régions concernées qui le souhaitent, donc à Lugansk et Donetsk principalement, alors que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'avoir deux passeports. La partie russe résonne officiellement en termes humanitaires et c'est vrai que de nombreux Ukrainiens de culture russophone donc qui sont restés dans le Donbass depuis la guerre ont souvent une partie de leur famille de l'autre côté de la frontière en Russie. Mais cette disposition très spécifique ne fait pas partie notamment des accords de Minsk II qui, bien que au point mort aujourd'hui, reste quand même le cadre auquel les parties, l'Ukraine et la Russie notamment, doivent se conformer. Et donc la réaction de Kiev est venue immédiatement de la part de la nouvelle équipe de Volodymyr Zelensky, qui ne s'est pas fait attendre, et le nouveau président ukrainien a appelé donc au renforcement des sanctions contre la Russie.
Merci Claude Brouillot, en direct de Moscou pour France Culture. Le conflit en Afghanistan a fait 1773 victimes civiles entre janvier et mars 2019, selon les chiffres de l'ONU. Alors que des pourparlers de paix sont engagés entre les États-Unis et les talibans depuis plusieurs mois, la guerre continue. Et ce que met en évidence ce rapport des Nations Unies, c'est que dans ce conflit, les forces de sécurité afghanes font de plus en plus de victimes civiles. Les précisions de Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul.
305 civils ont été tués par les forces étrangères et afghanes depuis le début de l'année. Les talibans et le groupe État islamique sont responsables de la mort de 227 civils. C'est la première fois depuis que l'ONU comptabilise les victimes civiles du conflit afghan que les forces gouvernementales et étrangères tuent plus de civils que les insurgés. Des chiffres alarmants qui s'expliquent par l'intensification des raids aériens menés par les États-Unis et l'aviation afghane contre les positions des talibans et du groupe État islamique. Les victimes sont aussi nombreuses lors des missions de reconnaissance au sol, essentiellement effectuées par les forces afghanes, dont certaines unités ont été formées par la CIA et qui semblent agir en toute impunité selon l'ONU. La Commission indépendante des droits de l'homme afghane déplore le silence qui entoure ces bavures. Les proches des victimes se bousculent dans ces bureaux provinciaux pour réclamer justice. « Nous sommes impuissants », disent leurs responsables. « Jamais aucune enquête n'est diligentée ni par l'OTAN ni par les autorités afghanes après la mort de civils dans des opérations des forces militaires. Cette impunité a de lourdes conséquences selon plusieurs militants des droits de l'homme. Elle pousse de nombreux proches de victimes dans les rangs des insurgés. »
Sonia Ghezali. 1 milliard de dollars, c'est le coût annoncé par Boeing de l'immobilisation au sol de son avion vedette, le 737 MAX, depuis la mi-mars. En 5 mois, deux tragédies ont fait douter de la fiabilité de ce modèle. Le 28 octobre dernier, un avion de Lion Air s'est abîmé en mer, 189 personnes sont mortes. Et le 10 mars, un avion exploité par Ethiopian Airlines s'est écrasé au sud-est d'Addis Abeba, faisant 157 victimes. Boeing traverse depuis une grave crise, mais le constructeur américain espère rebondir. Car 1 milliard pour une telle crise, ça n'est pas un coût exorbitant, à moins, Louis Glory, que Boeing n'ait passé sous silence une partie de la facture.
Oui, et pour se faire une idée, 1 milliard, c'est 1% environ du chiffre d'affaires de l'entreprise l'an dernier. Voilà ce que lui coûterait l'arrêt d'exploitation de ce 737 MAX. Dans ses comptes, l'avionneur prévoit une telle enveloppe pour deux raisons. D'abord, l'augmentation des coûts de production, puisqu'un logiciel d'aide au pilotage a été mis en cause dans les deux catastrophes. Il doit être évidemment modifié. Ensuite, pour mieux former les pilotes, c'est un préalable qui a été imposé par les régulateurs avant de lever l'interdiction qui pèse sur Boeing. Sauf que ce milliard, Aurélie, ne devrait pas permettre d'éponger toutes les pertes. Rien n'est prévu, notamment pour indemniser les compagnies aériennes lésées. Plus de 350 MAX 8 étaient exploités dans le monde. Ils devraient être cloués au sol au moins jusqu'à juillet. Rien non plus pour de possibles dommages et intérêts après la mort de 346 personnes dans les deux accidents dont vous parliez. À l'arrivée, Boeing rassure donc les marchés, mais le fiasco du 737 MAX, on parle de la plus grave crise de l'entreprise depuis 2013, 13 devrait lui coûter plusieurs milliards de dollars et pas seulement un seul, sans compter enfin la chute du titre puisque le bénéfice net de l'avionneur s'est écroulé de plus de 13% au premier trimestre.
Loïc Loury en direct de New York. Le président américain a annoncé l'envoi de soldats armés à la frontière après un incident avec des militaires mexicains. Donald Trump accuse ses soldats d'être potentiellement complices de trafiquants de drogue. Il reproche par ailleurs au Mexique de ne faire pratiquement rien pour interpeller les migrants clandestins et les renvoyer dans leur pays d'origine. Abbassi Madani est mort, chef historique du FIS, le Front islamique du Salut. Il avait milité pour la création en Algérie du premier État islamique du Maghreb. Il est décédé en exil au Qatar après une longue maladie. Le Conseil d'État valide la décision d'arrêt des soins pour Vincent Lambert, l'ancien infirmier dans un état végétatif depuis 10 ans à la suite d'un accident de voiture. Et la bataille judiciaire qui déchire sa famille dure depuis maintenant 6 ans. Sa femme souhaite l'interruption des traitements. Ses parents se battent contre l'arrêt de son alimentation et de son hydratation. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
6 ans de bataille judiciaire et ça n'est pas fini.
Oui, puisque les parents de Vincent Lambert ne vont pas s'arrêter là. Ils vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme comme ils l'avaient déjà fait en 2015. La CEDH avait déjà validé la décision d'arrêt des soins et tout laisse penser qu'elle va faire de même. Mais pour les parents de Vincent Lambert, la question n'est pas là. Leur but est de gagner le maximum de temps pour que leur fils vive le plus longtemps possible. Ces catholiques fervents sont opposés à toute décision humaine concernant l'arrêt de la vie. Et pourtant, la loi Leonetti actuelle pourrait répondre au cas Vincent Lambert. Elle permet un arrêt des soins, même s'il conduit au décès du patient, une forme d'euthanasie passive, même si l'expression a toujours été réfutée par Jean Leonetti. Le problème est, qui décide d'arrêter les soins si le patient n'est pas en mesure de se prononcer et s'il n'a pas donné d'indication écrite ? Ses proches, mais que se passe-t-il si ses proches ne sont pas d'accord ? Si sa femme demande l'arrêt des soins ? Et si les parents y sont opposés, qui décide dans ce cas? C'est la problématique de l'affaire Vincent Lambert. La justice a plusieurs fois demandé aux médecins de devenir arbitre de cette tragédie familiale, mais à 2 reprises, ils ont refusé de se prononcer face à la pression engendrée par cette affaire.
Antoine Marette, 13 maires lancent un appel à l'État au sujet de l'accueil des réfugiés en France. Ils protestent contre les conditions d'hébergement des migrants dans leur ville. Ils les jugent indignes et veulent que la politique d'accueil des réfugiés de l'État inclue plus les communes. Ils étaient réunis ce matin à Paris pour signer une lettre demandant à rencontrer le ministre de l'Intérieur et celui du Logement, Maud Calvez.
Metz, Strasbourg, Nantes, les signataires viennent de toute la France. Objectif, convaincre l'État de les inclure dans la politique d'accueil des réfugiés. Depuis toujours, associations, mairies tentent de combler certains vides laissés par le gouvernement. Mais pour cela, il faut plus de moyens. Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France.
La question qui se pose, c'est que on voit bien que l'État n'a plus la capacité pour organiser tout ça. Très bien. Bon, on le regrette, mais on en prend acte. Dans ces conditions, nous disons à l'État, écoutez, nous allons maire des villes concernées, nous allons nous en occuper, mais à ce moment-là, vous nous transférez naturellement les financements qui vont avec, parce que nous ne pouvons pas à la fois assumer de nouvelles responsabilités du fait du désengagement de l'État, donc assumer ces nouvelles responsabilités, en même temps connaître des ressources qui sont à la baisse. C'est ce que nous leur dirons.
Chaque ville gère l'accueil en fonction des besoins, mais surtout des moyens à disposition. À Metz, par exemple, entre 5 et 7 000 réfugiés sont accueillis chaque année. Raphaël Pitti, adjoint en charge de l'urgence sociale à la mairie de la ville, aimerait répartir les démarches administratives sur toute la région.
La ville de Metz est le guichet unique, c'est-à-dire tous les demandeurs d'asile de l'ancienne région que nous représentions, pour la Meuse, pour les Vosges, pour la Meurthe-et-Moselle, tous ces demandeurs d'asile viennent à Metz. Ce que nous demandons, bien entendu, c'est que l'on ouvre des guichets uniques dans chaque département, de manière à étaler sur le territoire et pas à venir concentrer sur Metz. Et
c'est un exemple parmi tant d'autres. L'État pourrait aussi augmenter le nombre de places en centre d'hébergement. À Grenoble, la municipalité a ouvert un village de chalets, payé plus de 5000 nuits d'hôtel aux personnes réfugiées, mais plus d'un millier vivent encore dans ces rues.
Seules, en tout cas, les villes ne vont pas y arriver et je rappelle que c'est une responsabilité de l'État.
Emmanuel Carroz, adjoint en charge de l'égalité des droits à la mairie de Grenoble.
Ça coûte moins cher d'avoir une politique structurelle que des politiques d'urgence. Donc, en plus, il y a du budget, hein. Nous, on appelle le gouvernement à avoir cette volonté politique, puisque c'est notre honneur.
Mairie et associations espèrent donc pouvoir rencontrer les ministres dès que possible pour les convaincre des grandes lignes à adopter, anticiper, débloquer des fonds et surtout donner plus de moyens d'action aux villes.
C'était hier après-midi dans les locaux de Sciences Po Paris. Le philosophe Alain Finkielkraut était invité à un débat organisé par l'association étudiante critique de la raison européenne. Mais à son arrivée, il a été pris à partie verbalement et empêché d'entrer dans l'école par une autre association étudiante appelée Sciences Po en lutte, Institut Clément Méric, du nom de l'étudiant antifasciste assassiné en 2013. La police est finalement intervenue pour faire entrer l'académicien qui a pu donner sa conférence. Bonsoir David Ravier.
Bonsoir Aurélie.
Il semblerait qu'on assiste à une crispation des débats dans le milieu universitaire.
Oui, et on sent que les prises de position sont de plus en plus marquées. Nous avons essayé de joindre l'association Sciences Po en lutte pour avoir leur version des faits, mais ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Néanmoins, dans leur communiqué, ils expliquent avoir voulu empêcher la conférence et la venue du philosophe parce que selon eux, Sciences Po réserverait un espace croissant aux discours qu'ils considèrent comme d'extrême droite, réactionnaire, raciste ou misogyne. De son côté, Alain Finkielkraut dit regretter de ne pouvoir se déplacer et de parler librement.
C'est une forme de censure, c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. On luttait dans les années 60 contre toutes les formes de censure, et aujourd'hui, par un étrange retournement, les étudiants les plus engagés politiquement militent pour la censure. Et je pense que c'est un phénomène qui va continuer.
Parmi les récentes prises de position de la part des associations étudiantes, on peut notamment rappeler l'annulation des suppliants d'Eschille qui devait se tenir à la Sorbonne, parce que des associations antiracistes voyaient une forme de blackface dans la représentation des personnages. Si les deux événements ne sont évidemment pas liés, ils témoignent cependant d'une rupture du dialogue dans l'enseignement supérieur, au profit de l'action, ce que déplore l'académicien.
De lutter contre le fascisme renaissant, de lutter contre le racisme. Et c'est ça qui est épouvantable. Ils se croient vraiment antiracisme alors que c'est un antiracisme dévoyé. Ils veulent faire la loi dans les universités et faire en sorte que leurs adversaires soient réduits au silence. Les combattre, c'est continuer à parler malgré eux.
De leur côté, les étudiants parlent d'un deux poids, deux mesures de la part de Sciences Po, qui aurait annulé la conférence d'une juriste palestinienne quelques semaines auparavant pour un motif sécuritaire. Preuve, selon eux, que tous les intervenants ne sont pas traités avec les mêmes égards.
David Ravier. Séisme, volcan, glissement de terrain, quels sont les risques telluriques en France? Les chercheurs du CNRS ont fait le point dans un livre intitulé « Quand la Terre tremble ». Vous avez rencontré ces scientifiques, Pierre-François Plessis, pour connaître les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes exposés.
L'outre-mer est connu notamment pour ses volcans, comme le Piton de la Fournaise à La Réunion, la Soufrière de Guadeloupe ou encore la Montagne Pelée en Martinique. Pourtant, c'est surtout un volcan allemand qui inquiète Claude Jopard, chercheur à l'Institut Physique du Globe à Paris.
Le Lachesee, c'est un volcan qui est dans la province d'Eifel. C'est une énorme éruption, donc c'est un système dont on sait qu'il n'est pas éteint. Il faut savoir que si ce volcan redevenait actif dans les décennies qui viennent, dans certains endroits de la France, il pourrait y avoir 1 mètre de sang d'épaisseur. C'est très difficile à dégager, les toits s'effondrent, les champs ne sont plus cultivables. S'il y avait du bétail dans les champs, ils sont morts, etc.
Parfois, ces volcans peuvent entraîner une autre forme de catastrophe, comme des séismes, c'est le cas à Mayotte, selon Jean-Robert Grasso, où des mesures montrent que l'île a été déformée par les tremblements de terre survenus cette année.
On a eu un grand nombre d'événements très concentrés dans le temps et de même magnitude, relativement importante, ce qu'on appelle des essaims. Magnitude entre 5 et 6 maximum, très régulière, qui dure depuis une année, avec des mesures qui ont été aussi des mesures de déformation de l'île de Mayotte.
Les Alpes et les Pyrénées sont aussi des zones touchées régulièrement par les séismes, mais les scientifiques s'inquiètent surtout de la sismicité induite, c'est-à-dire causée par l'activité humaine, comme l'explique Jérôme Vergne, de l'Institut de physique du globe à Strasbourg.
Il y a tout un ensemble d'activités humaines qui peuvent générer quelque part des séismes. On a eu le cas, on a toujours le cas de sismicité induite, par exemple à Lac, là où on a fait de l'exploitation pétrolière et gazéifère. Et on observe encore aujourd'hui des petits séismes qui, certains d'ailleurs, ont atteint la magnitude 4 dans cette zone d'exploitation.
Pour les scientifiques, la sismicité induite par l'homme est la plupart du temps faible et sans gravité. Mais selon eux, il y a toujours une possibilité pour qu'un épisode sismique grave arrive un jour.
Le livre « Quand la Terre tremble » sortira le 2 mai prochain chez CNRS Éditions. Une voix emblématique des années 70 paraît, le rocker Dick Rivers, grand admirateur d'Elvis, est mort des suites d'un cancer le jour de ses 74 ans. Il était le rock personnifié, dit de lui son ami Francis Cabrel. C'était un type extrêmement authentique, déterminé dans sa démarche. L'image de la droiture, confie le chanteur. On écoute Dick Rivers en 2007 sur France Info.
J'ai toujours envie de montrer que je suis capable de faire d'autres choses que cette image de rock, de fan d'Elvis, de machin, qui par moments me gonfle un petit peu. Il y a une sorte de double personnage chez moi. Il y a Hervé Fornery, né à Nice, et puis à Dick Rivers.
J'ai aimé les mots d'amour.
français quand j'avais 18 ans.
Auteur de 35 albums, Dick Rivers a très vite connu le succès avec des tubes comme « Est-ce que tu le sais ?» ou « Twist à Saint-Tropez » avec les Chats Sauvages. Passé dans l'ombre de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, il a tout de même persévéré. On peut citer « Plein soleil » en 1995 ou « L'homme sans âge » en 2008. Et en 2017, Dick Rivers a chanté « Africa », le tube de Rose Laurence en duo avec Julien Doré. Demain jeudi, temps très perturbé sur l'Hexagone. Les averses orageuses seront particulièrement soutenues sur les Cévennes. Les températures minimales iront de 5 à 11 degrés. Il fera entre 14 et 20 l'après-midi jusqu'à 25 degrés en Alsace. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.